Donc en fait, on a une grosse demi-heure de table ronde, enfin de hémicycle, que vous voulez, donc avec nos quatre orateurs. Et je vous encourage donc à poser des questions à voix forte, comme vous n'avez pas de micro, et autant que c'est possible des questions transversales. Voilà, mais si vous avez aussi des questions pour tel ou tel orateur, pourquoi pas, mais si vous avez des questions transversales, ben, allez-y, posez-les sur le thème donc, de la grâce.
Je pose la première question parce qu'on est sûr de pouvoir la poser. Si on peut poser la deuxième, ça on est jamais sûr. Malheureusement, elle n'est pas très transversale, mais s'adresse spécifiquement à Charles-Éric. J'étais un peu, j'étais interpellée par ce que tu as dit de la disproportion entre le châtiment de Dieu sur la faute de l'homme, dans la mesure où l'un serait fini et l'autre infini. Et alors, il se trouve que j'ai lu Anselme de Canterbury il y a quelques mois, et qui défend justement l'idée qu'il y a une proportion entre les deux, dans la mesure où la gravité de la faute dépend de la, disons, de la grandeur de Dieu. Et dans ce sens-là, elle n'est pas finie. Il fait une petite expérience de pensée que, je veux dire, si un seul regard contraire à la loi de Dieu pouvait sauver le monde entier, ou me faire gagner le monde entier, je n'aurais toujours pas le droit de jeter ce regard, parce que l'obéissance à Dieu passe avant toute chose. Et donc, le moindre des péchés a une valeur plus grande que le monde entier. Et donc, je voulais t'entendre, là, pourquoi tu penses qu'il y a cette disproportion, voilà.
Alors, c'est vrai que M. Cochet m'a aussi posé la question tout à l'heure, en me donnant la réponse. c'est certain qu'en fait, j'ai voulu essayer de défendre l'idée que la vengeance, il y avait toujours un risque de hubris, hein, c'est-à-dire de démesure, en fait, dans la vengeance. Mais peut-être que c'est peut-être trop exclusif comme position, parce qu'il peut y avoir effectivement une vengeance mesurée. Hein, c'est-à-dire, on peut donner des exemples, finalement, de vengeance qui soit juste, hein, au sens où il n'y aura pas forcément une réponse qui sera pire que l'attaque. Hein, par exemple, dans la vendetta, c'est M. Nicole qui me rappelait ça, mais dans la vendetta, finalement, le conflit prend fin à partir du moment où il y a eu un crime, et la personne qui a commis ce crime va être tuée, ce qui permettra finalement de rétablir la justice dans la vendetta, et à ce moment-là, le conflit, il y aura eu une vie contre une vie, et donc le conflit prendra un terme. Donc on peut avoir effectivement quand même des situations où c'est une vengeance personnelle, lorsque c'est cette vengeance personnelle, il n'y aura pas forcément de disproportion entre le crime et la vengeance. Et on peut penser qu'effectivement, en Dieu, il y a peut-être aussi cette justice qui serait présente et qui n'impliquerait pas forcément cette disproportion que j'ai pourtant essayé de montrer. Alors même si je pense que cette position, on peut quand même la défendre à travers la notion éternelle, mais comme tu le dis très bien, peut-être que les conséquences même de chaque péché sont infinies au sens où on n'en maîtrise pas tout à fait les conséquences. Enfin, je le verrais plutôt finalement au sens où tout péché que nous commettons peut avoir des conséquences infinies qui peuvent se répercuter. Hein, par exemple, on le voit bien dans l'exemple d'un viol, hein, c'est-à-dire qu'il y a un père qui a violé un de ses enfants, eh bien, cet enfant va être amené souvent à reproduire cette violence par la suite sur d'autres enfants, etc. Et à ce niveau-là, effectivement, il peut y avoir une répercussion de la faute à l'infini, ce qui justifierait peut-être une punition infinie pour celui qui est à l'origine, en fait, de cette faute. Alors, je ne sais pas si ça répond à ta question, mais à ce moment-là, effectivement, il y aurait peut-être plus ce souci de proportion. Ce qu'il y a de certain, c'est que la vengeance, c'est plus un risque, en fait. La disproportion, c'est plus un risque que peut-être qu'une nécessité.
Autre question ? La question de nos orateurs ? N'hésitez pas à formuler tout, les questions vous les formuler tout bas dans le petit groupe.
Alors je pose une question. Le temps qu'il y a les autres. Et là, c'est plus une question pour Jean-Baptiste. Une interrogation que j'ai devant la présence de, disons, l'omniprésence presque de la violence dans les films, jeux vidéo, etc. Je me demande si c'est une violence de substitution. Parce qu'il me semble que notre société actuelle, au moins en Europe, est moins violente que les sociétés à d'autres époques, et même encore en Europe au 19e. Est-ce qu'il y a une façon de répondre à ces questions si.
Tu veux dire, est-ce que le cinéma, en fait, a offert un exutoire?
Voilà. Mais bon, est-ce qu'il y a une façon de quantifier cela ou de... Parce que, effectivement, je crois que peut-être l'individu qui constamment regarde les films d'horreur, je veux bien croire qu'il soit violent, mais peut-être à l'échelle de la société, ça propose plus qu'un exutoire.
Voilà. Alors, mon point de vue, en fait, ça serait de dire oui, mais pas forcément pour les bonnes raisons. C'est-à-dire, oui, effectivement, il y a un spectacle un peu quotidien, la violence du monde, mais qui fait peur. Et du coup, l'individu ne va pas passer à l'acte. Mais ça, c'est la peur qui va motiver ça, en fait. Il va avoir une vision d'un monde tellement violent qu'il va se sentir très fragile par rapport à ça. Là, c'est moins sur le cinéma que sur la télévision, les reportages, une certaine réalité que la télévision propose du monde, qui effectivement, non, c'est politique, dans la mesure où ça empêche le passage à l'acte, mais je trouve ça aussi à côté de ça pour conséquence de sentir très écrasé en fait par cette violence-là. Et là, du coup, c'est une violence qui décourage, mais qui trompe aussi. C'est-à-dire, on présente le monde d'une certaine manière. Donc le monde n'est pas que violence en fait. Ah, c'est pour ça que simplement pour terminer, je ne considère pas le spectacle de la violence comme mauvais en soi, dans tous les cas possibles. Hein. C'est ça.
Je voudrais simplement ajouter une question, toujours à vous. Est-ce que vous avez observé une évolution quantitative, qualitative, quant à cette présence de la violence? Vous connaissez bien les productions, donc sur 50 ans, par exemple. Est-ce que vous observez quelque chose de significatif?
Oui, bien sûr. Ah, de manière évidente, c'est ce que vous disiez finalement sur l'évasion de société, qui était quand même. Il y avait une censure qui existait, en particulier dans le cinéma américain, à utiliser qu'ils ne censurent plus les films. Donc, forcément, quantitativement, il y a beaucoup plus d'actes violents montrés dans les films. Il y a aussi plus de films, plus de présence du cinéma et de la télévision dans la vie quotidienne des gens. Donc, tout est disproportionné. Enfin, pour moi, ce n'est pas comparable en fait, les deux situations. Donc, je ne prendrai que la situation aujourd'hui à l'état actuel de telle qu'elle est. Mais c'est un sujet, c'est un vrai sujet sur lequel je pense que l'Église peut se positionner aussi. Et c'est pour ça que je concluais sur le fait que le danger est plus l'abus de télévision que la violence en elle-même en fait, de la télévision. Et la place que ça prend dans la vie des gens, dans le choix. Mais sinon, clairement, oui, c'est impressionnant.
J'ai une question pour tous les intervenants.
Merci.
Si Dieu fait usage d'une violence juste et saine, comme M. Dauphine l'a présenté, est-ce qu'il y a des situations d'injustice auxquelles nous ne devrions pas faire de même? Donc en reprenant un peu les concepts que vous avez développés dans la troisième intervention sur une juste mesure dans la réponse.
Notion de punition et de vengeance. Voilà, je pense que chacun a un peu à avoir des éternels, la première intervention, notamment est-ce que c'est en contradiction avec annoncer la bonne nouvelle que chercher à peu près pour cette justice et donc à rentrer dans une autre violence. Voilà, ça. Puisqu'on me donne le micro, je prends bien répondre, mais les quatre. Oui. Je réponds nettement par l'affirmative à votre question. Je pense qu'à cause du péché dans le monde et de la difficulté que nous sommes de mesurer les choses, c'est par délégation de pouvoir du Seigneur lui-même que nous avons le droit et même le devoir d'user de violence légitime contre une situation d'injustice, par exemple. C'est précisément le rôle des autorités instituées par Dieu. Il porte l'épée pour ça. L'épée est symbole donc de cette capacité d'user de la force de façon qui attente à la vie des personnes à qui cela s'applique. Je pense que c'est le rôle des magistrats dans ce monde pécheur, que c'est une façon pour Dieu de réfréner la progression du mal, de permettre que ce vieux monde subsiste encore pour que tous ceux qui doivent hériter du salut héritent du salut.
Alors, je suis d'accord avec la réponse qui vient d'être donnée. Je l'avais suggéré d'ailleurs dans mon exposé. Il y a une question qui me reste quand même. Sur cette question-là, je pense qu'on peut faire une lecture très directe du Nouveau Testament. Lorsque les chrétiens se trouvent dans une situation de groupe minoritaire, face à un État relativement bien organisé, un État qui est neutre, qui est plutôt favorable, qui est plutôt défavorable. Et c'est là, parce que là, on se retrouve à peu près dans la situation du Nouveau Testament. Il y a l'Empire romain. Qui n'était pas un modèle de liberté, mais enfin il y a un État qui y a une justice. Donc les chrétiens se trouvent dans cette situation. Il y a deux situations qui m'interrogent et pour lesquelles je n'ai pas de réponse. C'est lorsqu'on se trouve dans une situation de déliquescence totale des autorités, que doivent faire les chrétiens ? Je ne pense pas qu'on puisse simplement en rester au commandement de non-violence. Là, on se trouve dans une situation limite. Et puis, l'autre situation que la chrétienté a connue pendant longtemps, c'est la situation de majorité. Le chrétien, dans une société où le christianisme est la religion officielle, qu'est-ce qu'il doit faire ? Et parce que les résultats obtenus durant la période de chrétienté ne sont pas entièrement positifs. C'est compliqué à mon avis. C'est très compliqué. J'ai pas de réponse. Je commence juste à réfléchir à cette question parce que c'est les questions qui ont surgi lorsque je suis arrivé à la fin de mon exposé. Il faudrait prolonger, mais je ne sais pas comment prolonger.
Non, mais je suis vraiment tout à fait d'accord avec ce qui a été dit. C'est ça, je veux simplement annoncer quelque chose. La réponse à la violence, qu'elle soit légitime ou pas. Ça peut être aussi par l'art, en fait, dans notre société. Et les chrétiens peuvent aussi prendre la voie de l'art pour simplement exister, exprimer certaines choses, parce que l'art est un puissant moyen d'expression. Je me dirais que ça ne suffit pas par rapport à la violence, mais dans tout ce que vous disiez sur la situation de société en déliquescence, que ce soit morale ou légale, je vois ça comme une réponse aussi.
Alors, j'étais aussi d'accord avec ce qui a été dit. Je vais juste peut-être ajouter un point. Parce que c'est vrai qu'on voit effectivement l'image que le Christ nous donne est plutôt l'image pacifique, hein, puisque M. Nicole a appris ce matin finalement que le Christ nous invite plutôt à subir la violence, mais à ne pas répondre à la violence par la violence, hein, si on te frappe la joue droite, dans la joue gauche. Il dit aussi à Pierre, je ne sais pas si vous vous souvenez dans ce passage dans le jardin des Oubliés où le Christ donc, est arrêté par les gardes du Sanhédrin, Pierre dégaine son épée et le Christ lui dit à ce moment-là, celui qui prendra l'épée périra par l'épée. Alors c'est vrai qu'il peut se dire finalement, est-ce que les théories de la guerre juste ne violent pas ce commandement du Christ, hein, celui qui prendra l'épée périra par l'épée. Et c'est là, je pense, qu'il faut faire peut-être une distinction entre le niveau de la violence que l'on subit individuellement et puis la violence que l'on subit collectivement. Parce qu'il me semble que ce à quoi nous invite le Christ, c'est pas effectivement à se faire justice individuellement. Et donc toute violence individuelle est bannie, puisque le Christ nous demande plutôt de subir l'injustice en ce qui nous concerne personnellement. Mais quand je suis un dirigeant politique et j'ai la responsabilité finalement de toute une nation, j'ai aussi le devoir en tant que responsable politique de protéger finalement mon peuple et de ne pas accepter pour les autres une injustice que je pourrais accepter pour moi-même. Donc on peut accepter une injustice pour soi, une violence, mais on ne doit pas l'accepter pour son peuple et pour les siens. Alors c'est ce qui justifie, me semble-t-il, comme le rappelait M. Blocher, la violence légitime de la guerre, à condition évidemment que cette guerre soit légitime, parce qu'il s'agit aussi de ne pas laisser le mal triompher. Hein, et donc si on reprend ces situations de, qui relève du loup satanum, ne pas avoir recours à la violence pour empêcher l'ennemi de mettre la main, par exemple, sur une population, sur un territoire et le réduire en esclavage, dans ce cas-là, on pourrait dire que je suis complice du mal si je ne fais rien. Et donc là, effectivement, à un niveau plus collectif, lorsqu'on a la responsabilité, finalement, de d'une nation, le recours à la violence me paraît tout à fait légitime, et c'est ce qui a été mis en avant, justement, dans les théories de la guerre juste, qui ont été théorisées par des théologiens chrétiens.
Juste pour préciser, je suis totalement d'accord avec vous. La distinction individuelle, collective, magistrat, je pense qu'elle peut aussi se retrouver à l'intérieur de nous, dans le sens de ma vie personnelle et mon engagement citoyen, vu qu'on est dans une démocratie et que nous sommes fortement participatifs, et merci Seigneur pour ça, aux décisions politiques. Et ouais, du coup, je réfléchis aussi à ce niveau-là sur l'aspect politique, mais pas simplement le président de la gouvernement.
J'ai une question aussi. Une question pour M. Nicolas. En fait, vous avez parlé, je trouve ça vraiment intéressant de comparer la violence dans l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Et alors, moi, à titre personnel, c'est le livre de l'Apocalypse qui m'a le plus marqué en fait, par sa violence. Et pas dans le sens que c'est choquant, mais parce que moi, ça me fascinait. Et qu'est-ce que vous pouvez dire en fait sur. Est-ce que c'est la plutôt de violence comme dans le Nouveau Testament, ou est-ce qu'on ne retourne pas à quelque chose qui est plus proche de la violence dans l'Ancien Testament?
Il y a le livre de l'Apocalypse reprend de nombreuses images de l'Ancien Testament, c'est un des livres de l'Ancien Testament, du Nouveau Testament qui est le plus lu par l'Ancien Testament. Ce qui est utile aussi de comprendre pour l'Apocalypse, c'est que c'est un message qui s'adresse à des chrétiens opprimés. Et ce message est un message de consolation, très fort. Ce qui fait peur au lecteur en lisant l'Apocalypse, en fait, ça rassure beaucoup le croyant à qui l'Apocalypse est adressé. C'est un livre d'images.
C'est quand même assez angoissant la représentation de la fin du monde que je propose en fait. C'est-à-dire que la violence dans l'Ancien Testament, c'est quand même sur des personnes, du sexe physique. Là, j'ai l'impression que c'est une violence totale, terminale, qui s'adresse certes au plus aux non-croyants, mais qui peuvent être aussi.
Enfin, l'Apocalypse se termine très bien.
dans la suite de la. Dans quel est l'avenir de la violence?
Quel est l'avenir?
Elle a de l'avenir, je pense.
C'est vrai, la vie, selon moi.
Elle prendra feu.
comment vous communiquez ça Qu'est-ce qu'on doit communiquer en tant que chrétien sur ce sujet?
La fin de l'Apocalypse, précisément, ne vous délivrera plus d'anathème. Toute malédiction, tout cela sera oublié. Les nouveaux cieux et la nouvelle terre sont créés pour la joie et l'allégresse. Nous avons une vision de paix majestueuse, toute englobante dans les deux derniers chapitres de l'Apocalypse. Je crois que la volonté de la révélation, c'est de nous assurer que le mal sera entièrement et parfaitement vaincu. Et comme la violence est soit un mal, soit un symptôme, un effet que le mal a requis pour entraîner, je pense qu'on peut dire que même la violence, dans ce sens, ne sera plus. Alors, la violence légitime et juste de la rétribution, du jugement, on pourrait dire qu'elle se prolonge dans le châtiment éternel. C'est la juste rétribution de la faute de ceux qui n'ont pas recouru à l'abri de la grâce qui est en Jésus-Christ et qui sont avec leur péché toujours sur eux. Mais est-ce qu'on doit parler d'une continuation de la violence, même juste légitime? Je plaiderais qu'on n'est pas obligé, que le châtiment éternel, qui n'est pas la seule annihilation, est décrit comme une mort, c'est la mort éternelle, la seconde mort, et cela me semble indiquer qu'il n'y a pas de renouvellement, ce n'est pas une activité. L'idée de mort publiquement, opposée à celle de vie, me semble correspondre à une totale incapacité d'agir. Et je propose l'interprétation du châtiment éternel comme seconde mort, comme d'un état fixe de remords par rapport à la vie qui a été perdue, qui a été cachée. Et donc, non pas comme une violence qui se perpétuerait. Il y a une remise dans l'ordre par cette reconnaissance du péché, par cette douleur fixe de l'avoir commis, d'avoir caché sa vie. Il me semble qu'on ne peut pas dire qu'il s'agisse d'un renouvellement ou d'une continuation de la violence. Et c'est dans ce sens que je pense que même en tenant compte de la présence du châtiment éternel, on peut dire qu'il n'y a pas de perpétuation de la violence. La violence est entièrement finie.
Lancer une sorte de sous-question après, un sujet qui n'a pas été abordé ici, mais c'est la place du sport dans tout cela. Que ce soit les sports martiaux, si on parle de la Coupe du Monde du rugby en ce moment, quel est l'effet, est-ce qu'on peut dire les parallèles entre violence au cinéma ou dans les arts avec le sport, ou est-ce que c'est différent?
Alors, tout à l'heure, sur la distinction entre brutalité, violence et combat, donc c'est en fait de la BBC hein, qui fait cette distinction-là. En fait, derrière ça, il y a l'idée, en gros, que lorsque le gentil a recours à la violence et du combat, lorsque c'est le méchant qui a recours, c'est la brutalité, en fait. Alors, je pense que c'est un peu ça, c'est pas vrai. Après, la question, du coup, c'est qui est gentil et qui est méchant. Mais du coup, c'est vrai que c'est intéressant parce que la question est moins sur l'intensité ou sur le sens ou le voir que vraiment sur les, encore une fois, les préoccupations morales des personnages. Donc, sans ça, je pense que c'est une distinction intéressante. Et je vais parler de sport après aussi.
Ah, d'accord, je
peux parler. Ah non, mais c'est compliqué. Non, enfin, alors moi, en tout cas, mon point de vue sur les spectacles de sport, c'est que c'est quand même très différent du cinéma. Certes, c'est du spectacle, mais en fait, il y a des règles. Donc, rien qu'à l'état. Alors, bien sûr, il se passe des choses hors règles. Mais le fait qu'il y ait un respect des règles influence quand même les spectateurs. Les spectateurs, c'est ce qu'ils vont voir.
Oui, en fait, il me semblerait justement que le cas du combat dans le sport, ça relève précisément du Yuxin Belo. C'est-à-dire qu'il y a des règles, comme vous rappelez, qui sont fixées, mais tout n'est pas permis, hein, tout n'est pas légitime, au sens où on sait que si on va au-delà de ce qui est autorisé par ces règles, à ce moment-là, effectivement, on entre dans le domaine de la violence au sens de violation des règles. Et donc il y a effectivement, dans la brutalité, il peut y avoir des combats brutaux, hein, le combat de boxe par exemple, ça claque à la brutalité, des rugbyman quand ils font une mêlée, c'est aussi effectivement, ça peut parfois être brutal, mais j'hésiterais à parler de violence, puisqu'il n'y a pas de violation de règles ici en l'occurrence, les règles sont admises par les deux parties. Donc si violence il y a, c'est une violence légitime.
Si les règles laissent trop de place à l'exercice de la force de la violence, il y a quand même un problème.
C'est les combats gladiateurs.
Oui. J'avais envie de dire que là, la question du dosage, des seuils dans les échelles d'intensité joue un très grand rôle. Je pense que l'usage de la force ne mérite pas, de manière tout à fait générale, d'être appelé violence. C'est au-dessus d'un certain seuil. Même dans ce qui peut paraître relation plus ou moins hostile, il y a violence au-dessus d'un certain seuil. Pour beaucoup des mots que nous en devons désigner, peut-être peut-on dire pour tous, c'est une perversion d'un domaine créationnel bon en lui-même. Tout mal est un bien perverti. Et moi, j'apprécie beaucoup que la scolastique, tout au Madakré, etc., est distinguée dans l'homme comme créé, donc dans sa bonté originelle, deux appétits qui sont fondamentaux, le concupiscible et l'irascible. Il y a la propension à désirer et il y a ce qui se pervertit en colère violente, mais qui est une capacité d'affirmation qui est bonne, qui est saine, qui est juste, qui plaît à Dieu, qu'il a mis dans sa créature, et que Thomas d'Aquin appelait l'irascible. Les humains, comme créés par Dieu, ils ne veulent pas que ce soit des lavettes. Il y a cette capacité d'affirmation qui est saine et bonne, et je crois que c'est elle que le sport, disons, exploite, à quoi le sport donne la liberté de s'exprimer. Et il me semble que, sauf s'il y a violation des règles avec méchanceté, le combat sportif appartient à la bonté de l'homme, que nous ne devons pas imaginer, c'est purement utopique, une relation toute de guimauve ou de sirop fade pour la vie humaine, parce que Dieu l'a voulu. Voilà.
Et même la papa.
Effectivement, j'ai tout à fait dans ce sens-là, d'autant plus que ça me faisait penser à l'idée que finalement, il me semble que la violence, elle laisse toujours un droit, en fait. Elle laisse autrui. Et donc, vous parlez de degré, en fait, dans la violence, et à quel degré, finalement, est-ce qu'on passe de la simple brutalité à une véritable violence. Il y a une violence dont on n'a pas beaucoup parlé, qui est la violence verbale. Et on voit bien que finalement, dans la violence verbale, finalement, on parlera de violence verbale à partir du moment où la personne va se sentir agressée ou blessée intérieurement. Or, il me semble que justement, ce qui ferait la spécificité de la violence, c'est cette capacité qu'elle a à blesser l'autre et à peut-être à la léser. Et donc, dans le combat, par exemple, on ne laisse pas autrui, on ne le blesse pas non plus. Par contre, effectivement, dès qu'il y a autrui qui se sent blessé intérieurement, je pense qu'effectivement, par la violence, à ce moment-là. Alors, il y aurait peut-être aussi à réfléchir sur le fait que le Christ a lui-même eu recours à la violence. Hein. On connaît l'exemple du marchand du temple, il a eu effectivement une violence. Mais là, c'est moins de la violence que de la colère. Et la colère, effectivement, fait partie, ce que je vais rappeler, de l'irascible. Et donc, ce que Dieu a voulu, finalement, en l'homme, c'est la raison pour laquelle j'éviterais peut-être à parler de violence de Jésus vis-à-vis des marchands du temple, mais plutôt d'une saine colère.
Vous parlez de violence verbale, si vous pensez à ça. Il y a plusieurs passages où Jésus souvent compare des opposants de l'adversaire à des animaux. Il parle de race solitaire, par exemple, il y a un fils de Satan, même si c'est pas un animal, mais c'est un animal. Il parle aussi de Hérode, je crois.
Renard, voilà.
Aujourd'hui, il y a eu beaucoup de travaux qui ont été faits sur la déshumanisation et sur le fait de comparer ces ennemis soit à des figures sataniques, soit à des figures animales pour en fait leur retirer tout aspect humain. Alors, je me rends bien compte que ce n'est pas ce qu'est en train de faire Jésus, mais dans quelle mesure est-ce qu'on peut comprendre ce qu'il est en train de faire sans le voir comme une forme de violence, sans le voir comme une forme de diminution de qui est l'autre. Bah,
c'est juste pour accentuer la question que ça pourrait répondre. J'ai téléchargé il y a quelques semaines des gravures de la guerre de 14. Ce sont des gravures dans lesquelles la géographie est représentée avec des figures, des animaux. Et alors on a deux images complètement différentes. Une de ces images, les Allemands sont des chasseurs qui sont présentés à l'intérieur de l'Allemagne et ils tirent sur des animaux qui sont autour. Alors il y a le coq, le gaulois, il y a le, je ne sais plus, mais est-ce que c'est un loup anglais, puis il y a un ours russe, etc. Donc ils tirent sur des. Et puis dans l'autre image, c'est exactement le contraire. L'Allemagne est un gros ours menaçant et ce sont les qui l'entourent qui lui tirent dessus. Voilà la question.
Il me semble que l'intention de déshumaniser ne peut être approuvée, que là nous avons atteint une limite, mais que l'usage de métaphores du monde animal dans la description d'adversaires ou simplement d'autres êtres humains ne tombe pas forcément sous la condamnation. Il y a suffisamment de proximité dans la création entre les animaux supérieurs et en gros les mammifères et certains autres aussi, peut-être les autres, et l'être humain, par volonté divine, pour que des rapports métaphoriques puissent être établis, positifs comme négatifs, parce que l'image du lion, le lion et l'agneau, dans les livres de l'Apocalypse, le lion de Judas, qui est l'agneau, lequel agneau d'ailleurs est guerrier avec des cornes, et ça correspond aux apocalypses juives de l'époque. C'est une métaphore ou un symbole habituel pour le Messie attendu, qui est censé libérer à la tête du troupeau, le jeune bélier plein de force, libérer le troupeau. Donc, il ne faut pas que nous lisons agneau, que nous pensions seulement au petit agnolet faible et pur. Il y a tout cet arrière-plan de l'apocalyptique juif qui, je crois, est très intéressant à noter. Et là, vous avez un usage animalier d'images qui sont quotidiennes. Alors, quand Jésus dit d'Hérode, ce renard, là aussi, un petit détail. Ce n'est pas la ruse qui, au 1er siècle, caractérise le renard dans l'imagerie, la symbolique populaire. C'est plutôt la malfaisance. Ce n'est pas homo. C'est pas la ruse. Donc, lorsque Jésus emploie cette expression, lorsque Jean-Baptiste parlera du Père, etc., je crois qu'il s'agit d'un usage de métaphore qui n'enfreint pas les règles d'une communication juste.
En fait, Jésus est un peu un précurseur de Jean de la Fontaine. Et effectivement, je pense que M. Boucher a tout à fait raison et que j'ajouterais juste finalement qu'il s'agit moins d'une déshumanisation de ses adversaires que d'une humanisation des animaux. Dans le sens où, effectivement, ces animaux, on les appelle nos animaux familiers, donc un jeu sur la familiarité entre le monde humain et le monde animal. Et Jésus utilise simplement des comparaisons qui sont parlantes. Hein, par exemple, le monde de vipères, ça fait penser immédiatement à l'hypocrisie qu'il dénonce par ailleurs chez les pharisiens. Donc on peut penser que finalement, c'est une simple manière d'utiliser une image parlante pour évoquer un trait de caractère. Et qui est plutôt une humanisation du monde animal qu'une déshumanisation de l'homme.
Alors, je